Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Écoutez actuellement l'un des derniers témoignages scéniques du très regretté Manu Dibango, disparu le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans. Lors de ce concert donné au Théâtre Antique de Vienne, en France, le maestro avait convié une grande formation symphonique, l'Orchestre National de Lyon, à venir magnifier ses œuvres dans un safari symphonique qui survolait 60 ans de carrière. Ce fut l'un des grands moments d'une longue épopée qui débuta à Douala, au Cameroun, le 12 décembre 1933. Nous avions maintes fois rencontré Manu Dibango au fil des années et parmi les conversations qui nous restent en mémoire, il y a celle de novembre 2013, à quelques semaines de son 80e anniversaire, il était venu nous présenter un album et un livre, tous deux intitulés « Balade en saxo ». Ce jour-là, Manu Dibango s'était raconté avec pudeur et honnêteté. C'est cette émission que nous vous proposons de réécouter aujourd'hui en hommage à ce grand personnage.
L'épopée des musiques noires.
Amuna. Boussa te o Madiba. Boussa Boussa. Boussa o Madiba.
Vous avez sans doute reconnu ce thème immortalisé jadis par l'immense Stevie Wonder et revitalisé en 2013 par notre invité du jour qui, disons le mot, s'est fait plaisir en adaptant ce titre « Isn't She Lovely » sur son dernier album « Ballade en saxo » qui survole quelques décennies de bouillonnement musical quand le jazz, la soul et la chanson française rythmaient le quotidien d'un multi-instrumentiste de grand talent que nous sommes toujours honorés d'accueillir ici. Manu Dibango, soyez le bienvenu.
Mr. Farmer, c'est un plaisir d'être avec vous et avec Nathalie de l'autre côté.
Nathalie Laporte, réalisatrice de cette émission. Je tiens à préciser tout de suite que ce nouveau disque accompagne la parution d'un livre, également intitulé « Ballade en saxo » aux éditions de l'Archipel. Peut-on dire que le CD est la bande-son de la biographie ?
On peut le dire quelque part, oui, oui, on peut le dire, on le dit, voilà.
J'ai en tout cas lu certains passages de cet ouvrage très complet en écoutant différents extraits du disque et tout cela se tient, d'autant que vous ne parlez pas que de musique dans ce livre, mais davantage de contexte politique, historique et culturel. Pourquoi avoir choisi cet angle-là d'écriture ?
Ben, c'est-à-dire, il y a eu un livre avant, 3 kilos de café, où on parlait beaucoup plus musique et des choses comme ça, beaucoup moins. On avait effleuré peut-être les contextes, les contours. Tout le monde sait que je suis musicien, donc on ne va pas encore faire la tautologie, quoi. Je veux dire, voilà, c'est bon. Mais par contre, au bout de 80, tu es un homme qui a vécu, de toute façon, à travers la musique, certes, mais il y a les yeux, il y a les oreilles, qui ne sont pas toujours orientés musique, qui sont aussi orientés d'homme à homme, être humain, tout simplement, qui a eu la chance de traverser ces décennies-là, et donc voilà.
Quel est le but, finalement, de ce livre ? C'est évoquer des thèmes que vous abordiez assez peu, vos convictions, vos engagements ?
Ben, ça sont souvent des questions qu'on ne me pose pas.
Exactement.
Combien de disques tu as vendus ? Et alors, ton procès avec Michael, bon, des trucs comme ça. C'est bien déjà qu'on s'intéresse à toi dans ce sens-là, mais est-ce que, en fait, les gens te reconnaissent, ils ne te connaissent pas, quoi. Voilà.
Ils ont une image de vous, et c'est vrai que derrière votre large sourire, on devine évidemment une certaine pudeur. Est-ce que l'écriture vous a permis d'exprimer des émotions ou des opinions que vous n'auriez pas mises en avant naturellement ?
Ça, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que c'est par pudeur, est-ce que c'est par timidité, ou bien c'est parce que, bon, à un moment donné, tu te dis, ben, je me lance, je me jette à l'eau, puis voilà le Manu que vous devinez, mais il est un peu plus cru, là. Parce qu'on ne vous donne pas le temps non plus, c'est normal, c'est chronométré, vous avez 2 minutes des fois, si vous avez la chance d'avoir 10 minutes, c'est pas mal. Vous dites certaines choses, mais il est vrai que vous ne pouvez pas vous étendre. Et puis, quand vous êtes en promo, c'est pratiquement les mêmes angles que tout le monde aborde. Ce n'est pas à vous non plus de leur dire « parce que vous êtes là pour la promo ou bien pour le disque. On parle du disque, on peut parler des morceaux, on peut parler des séances, on peut parler de l'atmosphère et pourquoi ce disque-là à ce moment-là. » Mais pendant ce temps, la vie coule. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. On aborde rarement ça. Personne ne connaît ma vie en dehors du Manu du saxo qui rigole un peu à la Armstrong. Voilà.
Mais est-ce que vous avez envie de la faire connaître, justement, cette face cachée ?
Non, pas toujours.
Voilà.
Non, le but n'est pas là non plus. Le but, c'est quand même de faire connaître les époques qu'on a pu traverser. Et les mélanges, les non-mélanges, les assemblages, les diversités des rencontres et tout ça, disons cette marmelade-là, ce magma-là, il est beaucoup plus intéressant que de connaître Manu. C'est pas plus intéressant que ça, Manu, le saxo, c'est bien. Mais d'un autre côté, le Manu, ben, il a vécu tout ça. Comment cette histoire-là a pu se faire autour d'un petit gamin de Douala, c'est plutôt ça.
Ce sont les rencontres, en fait,
voilà,
qui ont tout déterminé.
Exact.
Comme souvent dans la destinée d'un homme.
C'est ça. Bon moment, bon endroit, mauvais endroit, mauvais moment. Est-ce qu'il y a plus de bons moments que de mauvais ? Ce qui est sûr, c'est que je suis là au moins pour raconter les bons et les mauvais.
Personnellement, j'ai été passionné par votre épopée de jeunesse avant le succès de Saul Makossa, quand vous écoutiez indifféremment Edith Piaf, Louis Armstrong, Percy Sledge ou Dizzy Gillespie. Pourquoi le jazz américain a eu une telle influence sur vous ?
Il faut remonter à l'église, parce qu'en général, ça commence par, même pour eux, ça commence par les églises, et surtout du côté du fait qu'on soit protestant, qu'on a toute cette littérature musicale qu'on apprend chez nous. Bon, on l'apprend avec notre langue, mais au moins, ça t'aide, ça peut t'aider si tu as une oreille musicale, quand tu écoutes les Américains aller de ce côté-là, tu vois. Dans mon cas, je veux dire. Il se trouve que les choses qu'on chantait dans les temples à Douala, quand je suis arrivé ici, j'écoutais les Armstrong et tout ça, ça m'amenait beaucoup plus dans ce sens-là. Puis il y a aussi peut-être les timbres, les voix. Moi, j'ai été sensible aux voix et en même temps aux instruments. J'aime bien, moi, les artistes qui chantent et qui jouent d'un instrument. Hein, je veux dire King Cole, Benson, Ray Charles. J'ai beaucoup plus d'accroche là que uniquement le soliste. Attention, mettons-nous d'accord. Hein. Disons, les solistes, ils sont là quand même, les Parker, les Coltrane, les Miles Davis. Mais Manu est plus musical.
Voilà. Mais est-ce que vous n'étiez pas sensible non plus à l'improvisation ? À partir du moment où un musicien improvise, il est libre de faire ce qu'il veut. Et est-ce que ce n'est pas justement cet aspect-là du jazz qui vous intéressait ?
C'est l'un des aspects. Et puis, il y a aussi l'aspect ludique, l'aspect joyeux qu'on avait à cette époque-là. Le musicien du jazz apparaissait avoir toutes les libertés du monde. Effectivement, il pouvait tourner autour d'un thème. Une fois que tu avais compris le fait qu'il ne va pas jouer la même chose tout le temps, il y a « when the sense », ok, d'accord, mais autour, il agrémente ça, il amène des trucs. Ah, tu dis, tiens, ah, il a fait ça, il a fait ça. Donc, ça t'intéresse, quoi. Le côté improvisation, comme tu l'as dit, est très intéressant. Parce que ça te permet que deux et deux ne fassent pas toujours quatre, quoi.
C'est vrai. Absolument. Et puis, ça crée une identité.
Voilà, quelque part. Absolument. Quelque part.
Au-delà de la musique, est-ce que le militantisme des Noirs américains ou Afro-américains n'était pas une source d'inspiration ou de fascination pour vous ?
J'ai beaucoup aimé Chester Himes. C'est plutôt par là. Évidemment, la lutte pour les droits et tout ça, ça m'a intéressé. Les Martin Luther King, tout ce monde-là. Et beaucoup de musiciens, hein, parce que finalement, ces révolutions se sont faites à travers certaines personnes comme le pasteur. Mais autour du pasteur, il y avait toujours de très grands musiciens.
Aretha Franklin.
Voilà, ça donnait la caution. Même James Brown était là-dedans.
Mahalia Jackson.
Les gens qui sortaient des églises cautionnaient cela. Et puis même les Coltrane, hein, je veux dire, quand il a écrit Alabama,
bien sûr.
C'est précisément parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés à Alabama. Il a été sensible à ça. Freedom Now par Max Roach.
Avec Abel Lincoln.
Voilà, à chaque fois tu trouves un titre qui résume un tout petit peu ce qui se passait à ce moment-là. Donc, ils ont participé énormément. Et puis alors, évidemment, le côté humoristique, c'est, j'ai cité Chester Himes, qui te décrivait la vie du noir à Harlem et tout ça, à travers Ed Fossoyeur, les deux policiers en question, et qui développait ton imaginaire, beaucoup plus des fois même que le militantisme en tant que tel.
Quoi qu'il en soit, vous avez une telle admiration pour les grands jazzmen d'antan que vous avez adapté un classique de l'épopée des musiques noires, A Night in Tunisia, signé Dizzy Gillespie, immense trompettiste et chef d'orchestre. Vous l'avez rencontré ?
Oui, j'ai passé même à l'époque, oh là là, c'était une idole forcément, j'ai passé toute une après-midi, j'ai eu le privilège, il était à Radio France une après-midi, et il m'a reçu. Nous avons passé l'après-midi ensemble. J'étais tellement intimidé que je ne parlais pas beaucoup. Et il passait son temps à nettoyer sa trompette courbée, là, tu vois. Bon, il voulait en savoir un peu plus sur l'Afrique, parce que comme il avait fait Cuba, il a été quand même le premier à faire du Cuban jazz, tout ce qu'on veut. Et il était intéressé par tout ce qui était extérieur aux États-Unis. Donc Cuba était le plus proche. Et puis après, quand il a commencé à fréquenter des Africains, là-bas, à New York, et mais les Africains de Paris, ils n'avaient pas la même vision aussi. Hein.
C'est vrai.
Voilà.
La version originale de Night in Tunisia date de 1942, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est interprétée avec révérence par notre invité du jour, Manu Dibango. We'll be right back. A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie par Manu Dibango en 2013 sur l'album Ballade en Saxo qui célèbre 60 ans de musique et 80 ans d'une vie trépidante que vous racontez dans ce livre, également intitulé Ballade en Saxo. Quand avez-vous découvert ce titre, A Night in Tunisia ?
Oh, il y a très longtemps, dans les années 50. C'était déjà la bataille des anciens et des modernes, comme on aime ici en France. Hein. Je veux dire, les gars de Charles Delaunay qui aimaient le jazz contemporain, et puis ceux de Hugues Panassier qui aimaient le jazz des Chants du Coton. Hein. Il y avait déjà. Bon. Nous étions jeunes à cette époque-là, dans les années 50. Alors, on écoutait bien, naturellement. On avait tous, de toute façon, 20 ans de retard sur ce que les Américains écoutaient. Mais quand le bebop est arrivé ici, il était déjà développé aux États-Unis depuis longtemps, avec les Monk, les Dizzy, les Parker et tout ça. Mais c'était une cassure. C'était une façon pour eux d'enlever un peu ce côté oncle Tomisme qu'il y avait autour du noir, toujours hilar, machin, Yabon Banania, comme dirait l'autre. Et puis d'amener une architecture, une dextérité dans l'exécution des morceaux, dans une logique, bien entendu, hein, c'était pas n'importe quoi non plus, les notes choisies, mais très rapidement. Et donc, ça obligeait tout de même la gente, blanche, à regarder un peu plus, à écouter un peu plus.
À considérer.
Peut-être, parce que jusque-là, ce sont les Européens, d'ailleurs, qui ont découvert le jazz. Ils leur ont dit, mais vous allez chercher Stravinsky et tout ça, mais vous avez un truc chez vous. Et ils ont été les derniers à savoir qu'ils avaient un truc du XXe siècle. Hein. Voilà. Donc après, les autres ont franchi une étape encore beaucoup plus intéressante. Et eux, en plus, ils écoutaient Stravinsky et tout ça, Rachmaninoff et tout ça. Ils avaient fait leur devoir, comme dirait Quincy Jones, hein, à la maison.
Vous dites dans votre livre, « La découverte de l'Amérique a peut-être été le moment le plus fort de ma recherche d'une Afrique gagnante, c'est-à-dire ?»
D'une possibilité d'Afrique gagnante. Bah, oui, c'est-à-dire, en fait, au départ, ce sont des gens qui ont pris le bateau en dehors de leur volonté, hein, tu vois. Mais en même temps, qui se sont expatriés et qui ont gardé tout de même le côté original, et rencontrant donc l'autre ailleurs. Hein, et c'est, tous ces gens-là sont venus d'ailleurs, hein, parce que même les Blancs sont venus d'ailleurs. Les vrais Américains sont des Indiens, tout le monde
c'est
le
vrai.
Sait. Hein, voilà. Donc les autres se sont retrouvés là, chacun dans sa chapelle. Il a fallu qu'ils construisent un truc. Donc il y avait une capacité quand même de l'Africain, tiré de son contexte, de son cocon originel, à exister différemment et à absorber des choses qu'il n'aurait pas pu absorber. Et ce problème-là se pose beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, parce que l'Europe, c'est une multitude d'États, de pays, de... Un Russe n'a rien à voir avec un Français, même s'ils sont blonds, les yeux bleus et tout ça. C'est, voilà. Et là-bas, les Noirs qui sont partis, c'est un résumé de l'Afrique. Sénégal, Congo, Angola, etc. Et tout ce monde se retrouve dans un monde, un nouveau monde, confronté à des Irlandais, des Français, des Italiens. Tout le monde est parti. On refait le monde différemment. On ne peut pas refaire le monde ici de cette façon-là. Il n'y a qu'en Amérique que cette rencontre était possible.
J'ai le sentiment, en lisant votre livre, que certains chapitres sont davantage des messages aux générations futures que le récit de votre vie. Est-ce que je me trompe ?
À partir de quel moment les messages arrivent ? Il faut énoncer des choses pour qu'on puisse les comprendre comme messages. Je ne suis pas messager dans ce sens-là. Je n'ai pas de message spécial, mais j'ai une vision et je pense que on avancera si, réellement, si on prend l'imaginaire comme critère, comment développer l'imagination. Jusqu'à présent, on ne parle pas beaucoup de ça, or c'est l'imagination qui gère, qui peut te donner un projet, quelque part, une feuille de route, quoi. Et s'il n'y a pas l'imagination, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, je pars toujours de projection. La projection, elle peut être technique. Mais avant qu'elle soit technique, il faut qu'elle... comment je peux dire ça ? Le côté technique doit apparaître après, mais le côté vision d'une possibilité de faire un truc. Après, on s'assied et on commence à faire la technique. Mais si vous n'avez pas cette impulsion au départ, vous faites la technique sur quoi ? C'est ça. Je passe toujours devant le château de Vincennes, hein, parce que j'habite par là. Tous les jours, je suis ébloui par l'architecte ou les architectes qui se sont assis.
Et qui ont pensé.
Qui ont pensé à ça. Comment on peut s'asseoir et penser à ça? À la réalisation, donc, elle vient après. Mais il a fallu d'abord imaginer cette affaire-là. Bon, la technique vient, les volumes, les proportions, tout ce que tu veux après. Mais ça, après.
Donc, ça veut dire que vous êtes un architecte de la musique?
Non, j'essaye. Mais c'est aux autres de construire, peut-être. Je ne peux pas dire que je suis un constructeur dans un sens, mais je mets les éléments. Et là, il y a une discussion. Il y a une terrible discussion. Est-ce que tu es propriétaire de ton imaginaire?
Ou est-ce qu'il faut le transmettre?
Voilà. Tu vois, là, on ne peut pas aller loin, là. Tu vois, l'émission ne le permet pas. Mais ça sont des choses. À quel moment, d'abord, l'idée tombe sur toi? Et à quel moment tu te la fais tienne? Et à quel moment tu peux la restituer? Et un tout petit peu, parce que tu ne peux absolument jamais restituer ce que tu perçois, et donc tu ne peux jamais être satisfait d'ailleurs.
Oui, mais enfin, depuis 60 ans, vous faites un peu ça.
Vous restituez. J'ai toujours fait ça.
Bien sûr.
J'ai toujours fait ça, je suis sûr. Mais jusqu'à la fin, je dirais toujours que demain, on peut faire mieux.
En tout cas, tout cela explique pourquoi vous êtes aussi à l'aise dans des univers sonores aussi différents que l'afrobeat de Fela, le répertoire de Nino Ferrer ou la soul music d'Otis Redding. Try a little tenderness, un clin d'œil de Manu Dibango au regretté Otis Redding, disparu le 10 décembre 1967 à 26 ans. On ose à peine imaginer sa notoriété s'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui.
Eh oui, mais voilà, tous ces gens qui sont partis à l'âge de 27 ans, les Jimi Hendrix, les Janis Joplin,
Jim Morrison.
Voilà, tous ces gens-là, c'est 27, 27 ouais, c'est maximum, 27. Et on a l'impression qu'ils ont déjà tout dit. Hein, Clifford Brown aussi.
Hein, ouais, ouais, Clifford
la
Brown,
même
ouais.
chose, hein, c'est des gens qui sont partis toujours accidentellement. Des E.T., moi j'appelle des E.T., ils sont venus délivrer un message et puis ils sont repartis. Quoi.
Sam Cooke.
Et Sam Cooke, quand tu te rends compte que ce morceau Try a Little Tenderness, c'est un vieux standard américain que les Sinatra et tout le monde... Jamais personne n'a eu l'idée comme Otis et sa bande, parce qu'il y avait les Steve Cooper, c'était quand même les Booker T et les MGs. Quatre. Deux blancs, deux noirs, dans un milieu terriblement
raciste.
Nauséabond, quoi. Mmh. Ouais. Dire, bon, Elvis Presley habitait dans le coin, ouais. C'est pour te dire, quoi. Et donc, eux, ils abordent ce morceau complètement différemment.
C'est
ce
vrai.
Truc de cac, 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 cac qui arrive, on n'avait jamais entendu ça. Et en fait, on te donne l'explication plus tard que... Ils attendaient le train, à un moment donné, ils entendaient l'horloge de la gare, tu vois. Ils ont eu l'idée que l'horloge, eh ben, ils vont s'en servir. Et il n'y a plus rien dans le rythme, il n'y a que ce truc qui tient le morceau. Avec, évidemment, la voix et le groove de...
Otis Redding.
Otis, quoi.
Est-ce que vous avez eu la chance de le voir sur scène?
Ah oui, c'était magique. C'est tout ce qu'on rêve. Il y avait encore un rideau, on entendait les gars s'accorder derrière.
Ah ouais.
Tu entendais ces instruments-là, l'orgue à monde que tout le monde connaissait, mais personne ne jouait avec ça. Steve Cooper qui vient avec une guitare dans des fréquences. En fait, ils avaient leurs fréquences à eux, une façon de jouer. En même temps, très américaine, très texane, country. Il y avait la country là-dedans. Dans la soul, il y a le country aussi.
Bien sûr. Hein.
Et tu mélanges ça avec le bassiste, tu mélanges ça avec le batteur. La façon de jouer la batterie binaire, personne n'avait encore joué de cette façon-là. Alors, évidemment, quand ils arrivent sur scène, je souhaite ça aux jeunes, Benda, d'aller au concert, d'avoir les vibrations que nous, on a eues avec tout ce monde-là, quand même.
Manu Dibango, comme nous approchons à grands pas d'une date très symbolique dans votre vie, le 12 décembre, Nathalie Laporte et moi-même avons souhaité vous faire un cadeau symbolique qui, j'espère, vous enchantera et que Nathalie Laporte va vous apporter elle-même, la réalisatrice de cette émission, qui va donc faire son entrée dans son studio dans quelques instants. La voici. Et elle va donc vous remettre un petit cadeau très symbolique, mais auquel nous tenions.
Avec toute notre tendresse.
Oh là là.
Joyeux anniversaire Manu Dibango. Merci. Il s'agit des plus belles déclarations de Martin Luther King regroupées dans ce petit livre paru chez Applewood Books. Et je vous conseille la page 9 et des mots pleins de sagesse. Il dit « À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence assourdissant de nos amis. »
C'est très, 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 très actuel. C'est très, très actuel et... En fait, ce gars-là, il passe toutes les époques, hein, parce que prédicateur, ça ne veut rien dire, mais visionnaire, oui, certainement. Merci, merci beaucoup, ça me touche. Et je vais le lire, et puis il est bien présenté en plus. Hein.
C'est un très beau livre. Ouais.
C'est joli. Hein. Yes.
Merci mille fois, Manu Dibango, d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci à toi, merci à vous, du coup. Hein. Et ben, écoute, c'est un... à chaque fois qu'on se voit, on a toujours plaisir
à converser.
À passer, puis à échanger. Hein.
C'est vrai. On pourrait parler pendant des heures, je pense.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et je n'ai plus qu'à vous dire, et ouais, c'est...
Et ouais, c'est... Merci, merci, Ginglaé. Merci beaucoup à toi, c'est vrai.
C'était le 9 novembre 2013 dans l'épopée sur RFI. Manu Dibango narrait en toute humilité sa prestigieuse épopée à l'occasion de son 80e anniversaire et de la parution du livre et du disque Ballade en saxo. Nous sommes tristes aujourd'hui, mais félicitons-nous d'avoir été les contemporains de cet homme de cœur dont l'altruisme et l'ouverture d'esprit seront des exemples à suivre. Merci à Nathalie Laporte d'avoir soigneusement conservé ce document. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Dans quelques instants, le journal.